Votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.
Christine Huchette, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Alors voilà, nous nous retrouvons pour poursuivre notre réflexion sur les attitudes ou les styles de communication. Nous avons dans un premier temps fait une introduction à ce sujet en parlant en particulier d'Elias Porter, donc celui qui a traité cette dimension-là et qui vous permet à vous en tant que coach évidemment de la développer dans votre travail au quotidien. Nous avions évoqué les deux premiers aspects qui font partie des styles de communication et qui sont le jugement et la décision. Donc deux aspects qui sont plutôt centrés sur soi-même. Quand on pratique l'écoute et que l'on utilise le jugement et la décision, c'est qu'on est plutôt centré sur ses propres préoccupations que sur la personne de l'autre. L'objectif étant, je le rappelle, d'être plutôt à l'écoute de l'autre justement, donc il faut avancer. Nous allons poursuivre ce cheminement en traitant les deux aspects intermédiaires que sont le soutien et l'interprétation, toujours dans le cadre de la communication et de l'écoute donc. Hein. Alors peut-être est-ce que vous pouvez nous remettre un tout petit peu dans le bain pour nous aider à comprendre pourquoi vous abordez ces deux aspects que sont le soutien et l'interprétation, et puis ensuite on va les détailler.
Donc nous sommes toujours dans le contexte de découvrir ensemble ces six attitudes d'écoute de supporters. Donc moi je les utilise beaucoup puisque je trouve que c'est intéressant de les exposer lorsque nous faisons des séminaires de communication et de les exposer aussi dans nos attitudes de manager, de recruteur. Puisque bien souvent nous sommes tous, je pense et je redis, tous de bonne volonté et nous voulons tous être à l'écoute de l'autre. Sauf que ce qui fait notre personnalité ou ce qui nous protège parfois, ce qui nous met à l'aise ou mal à l'aise, donc fait qu'on perturbe un tout petit peu ce schéma de l'écoute de l'autre et que du coup on pense écouter l'autre et en fait on s'écoute soi-même. Mmh. Et donc nous sommes dans cette pyramide où on a défini les attitudes selon cette échelle où on est plus centré vers soi ou plus centré vers l'autre. Mais je l'ai dit la dernière fois, pour ma part, il y a quand même des attitudes qui sont intéressantes, comme la décision. Bien qu'elle soit centrée sur soi, elle est intéressante dans certaines situations. Par contre, aujourd'hui, donc, on voit le soutien et l'interprétation qui sont donc des attitudes où on écoute l'autre, mais peut-être qu'on n'est pas encore complètement dans la posture de s'oublier pour être tout à fait à la disposition du discours de l'autre, du contenu de ce discours et de ce que l'autre souhaiterait que l'on en fasse.
Pourtant, j'ai l'impression que quand on parle de soutien, alors on est a priori pleinement à l'écoute de l'autre, là pour l'aider, l'accompagner, etc. Enfin, ça semble très dynamique et vous apportez un bémol.
Alors, vous avez dit le mot qui fait mal, mais pour l'attitude de soutien qui est caractéristique, parce que vous avez dit pour l'aider. Alors effectivement, les personnes qui sont dans des écoutes de soutien sont tout à fait dans une relation d'aide, mais si je peux me permettre, et je m'excuse déjà auprès de ces personnes qui sont dans le soutien, elles aident parce que ça les aide. Elles aident parce que ça leur fait du bien aussi à elles d'aider. Et donc ça, il faut faire très attention, parce que certaines personnes vont vous dire un certain nombre d'éléments, mais quand elles vous parlent de ces éléments, elles ne s'attendent pas à ce que vous trouviez systématiquement des solutions. Elles vous parlent comme ça, pas plus. Alors, je vais vous donner un exemple pour illustrer mon propos. Je vous en donner deux. Je trouve ça vraiment très caractéristique des postures d'écoute de soutien. Alors, vous vous imaginez, si c'est possible, puisque aujourd'hui, nous sommes à Annecy, nous ne sommes pas à Paris, mais j'imagine que vous avez en tête les tours de la Défense. Dans ces tours de la Défense, il y a des ascenseurs, et dans ces ascenseurs, il se passe un certain nombre d'événements. Et donc, je travaillais là-bas, j'étais à la pause déjeuner, et je me suis retrouvée donc avec deux personnes qui attendaient l'ascenseur avec moi. Et donc, on dira peut-être Caroline et Nathalie. Et donc, Caroline et Nathalie montent dans l'ascenseur et Caroline dit à Nathalie oh, « Qu'est-ce que j'ai mal au dos en ce moment, mais j'ai vraiment mal au dos » et elle avait l'air vraiment de souffrir. Et bien sûr, Nathalie, eh bien, qu'est-ce qu'elle répond? Elle répond, ah bah, si tu veux, au bureau, j'ai une belle carte de visite pour un très bon ostéopathe. Je vais te donner ses coordonnées, tu l'appelles et tu verras, il fait un travail formidable. Et là, bien sûr, Caroline dit, non, ça va, j'ai ce qu'il faut, c'est bon, je vais me débrouiller. Voilà, donc on est vraiment dans une caractéristique de soutien, c'est-à-dire que Nathalie se sent obligée de tout de suite apporter une solution, apporter une aide, et donc là, la matérialiser par les coordonnées de quelqu'un qui pourrait soulager Caroline. Or, ça n'était pas le propos de Caroline. Caroline ne disait pas « est-ce que tu connais quelqu'un ?» Elle disait « j'ai mal au dos ». Ouais. Et souvent, les personnes qui sont dans ces attitudes de soutien peuvent être très malheureuses, parce que comme elles ont besoin d'aider, elles sont malheureuses quand la personne qui est en face ne prend pas l'aide. Et elles trouvent ça des fois très très injuste. En coaching, quand on travaille sur ces postures et qu'on détecte une attitude de soutien chez la personne, et qu'elle-même détecte chez elle une posture de soutien, elle évoque souvent ce côté mal à l'aise ou embêté ou désolé quand le cadeau qu'elle pensait faire n'est pas retenu ou est même voire repoussé.
Il me semble qu'on a très très souvent cette attitude-là de façon globale. Enfin, il y a peut-être des personnes qui n'ont absolument pas envie d'aider les autres, mais en général, quand on vient nous présenter une difficulté, eh bien automatiquement le réflexe, donc, c'est de dire « ah ben voilà, j'ai la solution pour toi ».
C'est effectivement peut-être un réflexe, et le côté pertinent, c'est effectivement de détecter si la personne vous parle d'une difficulté ou si elle vous demande de résoudre sa difficulté. Voilà. Il faut être un petit peu perspicace, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir tout de suite être dans une relation d'aide. Il faut écouter la personne et détecter est-ce qu'elle veut être aidée, est-ce qu'elle veut que je lui apporte quelque chose, ou est-ce qu'elle est juste en train de me dire, dans l'exemple que je citais, qu'elle a mal au dos, parce que finalement ça la libère un tout petit peu de pouvoir s'exprimer, sans tout de suite rentrer dans une relation d'aide.
Ça nécessite par conséquent une écoute attentive, là, pour le coup. Elle ne peut pas être superficielle.
Eh bien voilà, quand on est centré sur l'autre, on devient vraiment dans l'attention, dans la concentration, et non plus dans le côté « tiens, j'ai entendu dans... qu'elle parlait de mal de dos, je vais lui proposer des références d'ostéopathe ».
Est-ce qu'il y a des avantages tout de même à être dans le soutien ?
Bien sûr, parce que quand vous êtes vraiment dans la difficulté et que vous rencontrez quelqu'un qui est dans le soutien, ça va forcément être agréable de se sentir justement soutenu, aidé, compris. Sur le moment, la personne peut être rassurée. Hein, voilà. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de contre-indication à être dans une attitude de soutien. Je dirais qu'on prend plutôt des risques, parce que si ça n'était pas le besoin de l'autre, eh bien, on va être déçu. On ne va pas comprendre pourquoi nous ne sommes pas reconnus et entendus dans l'aide qu'on veut apporter. Dans certaines formations, il y a des personnes qui vont vous dire « Non, non, mais ça va, madame boîte à outils, c'est bon, laisse-moi tranquille. » Donc quand on entend ce genre de choses, on entend « J'aimerais pouvoir parler sans que ta posture de soutien vienne perturber en permanence mon propos. »
Oui, ça devient de l'ingérence, là. C'est le mot qui me vient à l'esprit.
Mais c'est ça, effectivement, ça peut être vécu comme de l'ingérence.
Alors, le deuxième aspect que nous abordons aujourd'hui, c'est celui de l'interprétation. Moi, je suis un petit peu surpris par cet ordre, puisque nous avons choisi d'aller du plus centré sur nous-mêmes au plus centré sur l'autre. Et là, vous mettez l'interprétation après le soutien, donc en direction de l'autre. Moi, je trouve que l'interprétation, parfois, elle prête à caution.
Alors effectivement, on peut imaginer que l'interprétation prête à caution. Simplement, il faut voir à ce moment-là l'interprétation dans le sens où je vais commencer à poser des questions à l'autre, à lui proposer des interprétations, des visions de ma compréhension pour valider avec lui que c'est bien ce qu'il voulait dire. Et c'est pour ça que nous abordons les postures centrées sur l'autre. Donc, si je peux me permettre de me répéter, jugement, décision et soutien, finalement, on se rend compte que ce ne sont pas des attitudes dans lesquelles on va aller poser des questions à l'autre. On se fait confiance à soi-même et on réagit par rapport à l'idée que l'on s'est fait de ce que disait l'autre.
Et par rapport à nos propres critères, par conséquent.
Exactement, voilà. Alors que maintenant, en parlant d'interprétation, et la prochaine fois, lorsqu'on parlera d'enquête et reformulation, nous abordons des postures d'écoute où nous allons faire des propositions à l'autre, où nous allons poser des questions à l'autre, pour qu'il puisse réagir et qu'il puisse nous dire « oui, c'est cela, c'est exactement cela que je voulais dire » ou « non, pas du tout, vous n'avez pas compris ». Et à ce moment-là, l'autre se sent quand même beaucoup plus présent et beaucoup plus participatif dans la conversation.
Alors l'interprétation, peut-être en dire encore quelques mots, il y a à la fois des intérêts, comme pour les précédents, et aussi des risques.
Donc en fait, il faut imaginer l'interprétation comme la volonté de communiquer à l'autre la signification que nous avons retenue de ce qu'il a dit. et de peut-être volontairement lui démontrer que lorsqu'il dit ceci ou lorsqu'il dit cela, eh bien, cela peut avoir plusieurs significations et peut-être l'alerter sur justement sa manière aussi à lui de communiquer. Donc, les avantages, c'est que comme nous allons livrer une lecture de ce que l'on a entendu, eh bien, la personne, ça lui permet de rectifier éventuellement. Ça lui permet d'expliquer plus largement. Donc, on est plutôt dans l'ouverture. Voilà, donc ça c'est le positif. Le négatif, c'est que si vraiment on fait de la provocation aussi nous-mêmes, nous n'avons pas bien compris que l'interprétation que nous faisons n'est pas du tout adéquate, eh bien la personne peut être elle-même déçue et peut commencer à se dire « mais je ne me suis pas du tout fait comprendre » et peut se bloquer également en disant que on juge. Hein, vous voyez, entre interprétation et jugement, il y a une frontière qui est assez difficile parfois. Donc, il faut être très, très clair.
Christine, par rapport à tout cela, j'aurais envie de dire que c'est une question de décodeur, finalement, pour prendre une image. C'est-à-dire que si on a le bon décodeur, l'interprétation est bonne, et puis si on ne se comprend pas, on décode les choses de la mauvaise manière, et alors les risques sont effectivement importants.
Alors, il s'agit effectivement d'avoir le bon ou le mauvais décodeur quand on est dans une relation, par exemple, par la machine à café. Par contre, quand on est dans une relation professionnelle, je reprends la notion de recrutement, le recruteur peut volontairement donner des interprétations, bonnes ou mauvaises, pour faire parler le candidat. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller plus loin. Un exemple qui me vient tout de suite là, comme ça, en tête, c'est en termes de recrutement, on entend souvent les candidats dire qu'ils veulent changer parce qu'ils ont fait le tour du poste. C'est une expression qui revient régulièrement. J'ai fait le tour du poste, je veux évoluer. Et qu'est-ce que faire le tour du poste ? Et donc, nous allons peut-être dire, et alors finalement, pour vous, faire le tour du poste, c'est s'ennuyer. Ou alors le tour du poste, c'est avoir, au contraire, développé un certain nombre de compétences. Avoir fait le tour du poste, c'est peut-être aussi commencer à se sentir tout à fait à l'aise dans un domaine et se sentir prêt à prendre plus de responsabilités. Donc on a plusieurs interprétations et on va livrer une interprétation. Vous avez le choix entre les trois que je viens de vous donner et voir la réaction de la personne.
Pour voir à quoi ça correspond pour elle.
Et surtout l'inviter à nous dire autre chose que j'ai fait le tour du poste.
D'accord. Oui, c'est d'ailleurs une formulation qui m'a toujours assez surpris. Faire le tour du poste. Quel poste de radio? Bon, là, je plaisante bien évidemment, mais néanmoins, il faut réfléchir à cette expression-là. Ça peut être aussi la manifestation d'une très forte ambition. Mais après, on peut tomber dans le principe de Peter. Mais voilà, c'est un autre sujet.
Tout à fait. Mais vous voyez, voilà, on a plusieurs interprétations possibles. Alors, on n'est pas dans le jugement quand on est conscient que nous sommes en train d'interpréter et que nous proposons nos interprétations et que nous acceptions l'idée aussi qu'elle soit critiquée.
De part et d'autre.
De part et d'autre.
Très bien, eh bien, moi je vous propose que nous nous arrêtions là pour aujourd'hui, parce qu'il y a plein de choses passionnantes encore à voir ensemble, et que le temps passe. Nous allons nous rapprocher de plus en plus de l'écoute centrée sur l'autre, avec deux éléments pour notre dernière émission autour de ce sujet, l'enquête et la reformulation, là encore, des mots qui peuvent prêter à confusion, enfin en tout cas qui me font réfléchir, et j'espère vous aussi, chers auditeurs. Merci Christine Huchette de nous conduire à cela, et puis à très bientôt.
Merci Fabrice,
à bientôt. Au revoir.
C'était Votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.